Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission « Ensemble, faisons entendre la voix des jeunes ». Aujourd'hui, nous allons parler de la contraception chez les jeunes. La contraception est l'ensemble des méthodes permettant d'éviter les grossesses non désirées, de prévoir, planifier et espacer les grossesses en fonction des envies et des moyens des femmes, des filles ou des couples. Merci à nos invités d'être venus partager leur point de vue avec nous. Pouvez-vous déjà vous présenter? On va commencer par le monsieur à gauche. Bonjour monsieur, votre nom et prénom?
Bonjour à toutes et à tous, je me nomme Ibrahim Sissoko.
Au milieu, une dame. Bonjour madame, votre nom et prénom?
Bonjour tout le monde, moi c'est Oumou Salif Touré.
Et enfin notre troisième invité, monsieur, bonjour, votre nom et prénom?
Bonjour, merci de nous avoir invités. Je me nomme Ousmane Maïga, je suis le secrétaire général de l'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie et chargé de programme Alliance Droit et Santé.
Voilà, merci d'avoir répondu à notre appel, messieurs, dames. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose d'écouter notre histoire du jour. L'histoire du jour nous plonge dans le parcours de Safiatou, qui après sa première grossesse a désiré d'avoir recours à la contraception pour éviter les grossesses rapprochées et se donner les moyens d'élever ses futurs enfants dans les bonnes conditions. Écoutons l'histoire de Safiatou.
Je m'appelle Safiatou. J'ai été mariée à l'âge de 15 ans. Quand j'ai eu mes règles, ma mère m'a mise en garde. Elle m'avait donné des conseils. Elle m'avait dit que je devais faire attention aux hommes. Elle m'a fait comprendre que j'avais changé. Elle m'a dit que si je m'approchais d'un homme, je tomberais enceinte. Ça m'a fait peur. J'ai cru qu'il suffisait de s'approcher d'un homme ou d'être touchée par lui pour être enceinte. Avant de rencontrer mon mari, un monsieur d'un milieu nantis m'avait déjà fait une proposition de mariage. Il m'avait amené avec un copain à lui et une copine à moi chez lui. Quand il m'a fait entrer dans la chambre, il a sorti des sachets en plastique et m'a dit que c'était des capotes et que les capotes permettaient de ne pas tomber enceinte ou de contracter des maladies. C'est la première fois que je voyais ça. J'ai compris ce qu'il voulait. Je lui ai dit que je ne coucherais pas avec lui avant le mariage. Il m'a dit qu'il m'épouserait, mais qu'il devait d'abord me tester. Être sûr que je pouvais avoir des enfants. J'ai refusé. Il a insisté. Mais comme je me débattais, il a laissé tomber. Ça m'aurait bien plu qu'il m'épouse parce qu'il avait une belle maison. J'ai connu mon mari à la gare routière où je vendais des gâteaux. Il m'a tourné autour pendant 3 mois sans oser. Puis il a commencé à m'acheter des gâteaux. Son petit manège m'a amusé. 2 semaines après, il me demandait de sortir avec lui. Je n'ai pas accepté tout de suite. Il était beaucoup plus vieux que moi. Il avait autour de 30 ans et moi pas encore 15 ans. Mais il parlait très bien, avec beaucoup de proverbes. Il savait donner des conseils. Finalement, il m'a plu. Au bout d'un mois, je l'ai présenté à mes parents et j'ai commencé à préparer mon trousseau avec l'argent des gâteaux pour mon mariage. Le jour de mon mariage, mes tantes m'ont donné des conseils. Elles m'ont expliqué qu'il fallait que je sois soumise. Que je fasse ce qu'on me demande, que je respecte ma belle famille. Mon mari est venu me trouver dans la chambre. Il s'est déshabillé. Ça m'a fait peur. Je ne savais pas du tout ce qui allait se passer. Je n'imaginais pas que cette histoire de pénétration. Je n'avais jamais osé poser cette question à ma mère par crainte qu'elle ne pense que j'ai de mauvaises pensées. J'ai eu mon premier enfant il y a 6 mois. L'accouchement s'est passé difficilement. Je voudrais éviter les grossesses rapprochées. Je vais profiter de l'absence de mon mari pour faire la piqûre de contraception, comme nous le conseille la sage-femme pendant les causeries. J'ai honte de parler de la contraception à mon mari. J'ai peur aussi qu'il pense que c'est pour faire de n'importe quoi à son absence. J'irai au centre de santé avec mon mari pour voir la sage-femme. J'espère qu'elle va réussir à le convaincre que la contraception, c'est pour le bien-être de notre famille.
Merci à Safiatou pour son témoignage émouvant. Nous sommes vraiment informés sur la contraception. Pour en avoir le cœur net, notre reporter a demandé à des personnes dans la rue de citer deux méthodes de contraception qu'elles connaissent. Écoutons-les. Est-ce que vous pouvez nous citer deux méthodes contraceptives que vous connaissez?
Oui, il y a la méthode DU et la méthode pull plan.
Est-ce qu'il y a d'autres méthodes plus que ça aussi que vous connaissez?
Non.
Oui, il y a plusieurs méthodes contraceptives, mais je peux vous en citer au moins quatre. Il y a les pilules, qui sont des comprimés que la femme peut prendre. Il y a les Jadel, que ce sont des méthodes contraceptives qu'on peut placer dans les mains. Oui, également, il y a les DU, on l'appelle les dispositifs intra-utérins, qu'on peut placer à l'intérieur de l'utérus. Il y a également des méthodes chirurgicales irréversibles. On appelle ça la ligature et résection des trompes.
Il y a la préservatif et l'allaitement exclusif.
Et est-ce qu'il y a d'autres méthodes que vous connaissez?
Oui, la méthode de maman, c'est ça qui est l'allaitement exclusif.
Oui, je connais des méthodes contraceptives. La méthode à maman et Norplan.
La méthode à maman, comment ça se passe avec ça?
La méthode à maman, c'est une allaitement exclusif que la maman doit faire. Et elle doit donner du sein à l'enfant à tout moment, quoi. Oui.
Et le deuxième que vous venez citer, c'était?
Ça, c'est Norplan. On insère ça.
Je vous rappelle que vous suivez votre émission Ensemble faisons entendre la voix des jeunes. Notre thème du jour porte sur la contraception chez les jeunes. Avant de continuer le débat, j'aimerais vous donner quelques informations sur la contraception. Au Mali, seulement 5,8% des jeunes filles non mariées et 6,7% des jeunes filles mariées de 15 à 19 ans utilisent une méthode contraceptive moderne, selon l'EDSM V2013. Par ailleurs, 23% des filles de 15 à 19 ans mariées souhaiteraient utiliser une méthode contraceptive, mais ne le font pas. C'est donc des besoins non satisfaits. Les jeunes filles mariées sont une cible particulièrement importante et souvent oubliée en matière de PF. Et ces chiffres montrent qu'il y a une forte demande des jeunes et des besoins non satisfaits. Serge invité, nous allons passer aux questions. Je vais commencer à M. Ibrahima Sissoko. M. Ibrahima Sissoko, connaissez-vous des jeunes sexuellement actifs qui ont recours à la contraception?
Ok, merci beaucoup, monsieur, de m'avoir posé cette question. Et je vais vous répondre avec certitude. Je connais beaucoup de jeunes qui sont sexuellement actifs et qui utilisent les méthodes de la planification familiale. Moi-même, je sensibilise beaucoup de jeunes pour qu'ils puissent utiliser ces arts de méthodes pour qu'ils ne tombent pas dans leurs erreurs. Parce que les méthodes de la planification familiale, ce sont des moyens qui peuvent éviter les jeunes à commettre des erreurs. Des erreurs qu'ils ne peuvent pas du tout souvent récupérer dans la vie. Donc, je peux vous dire que je connais beaucoup de jeunes qui sont actifs sexuellement et qui utilisent les méthodes de la planification familiale.
Je reste toujours avec toi. Pourquoi y ont-ils recours?
Parce que on dit que l'avenir du pays, ça c'est le jeune. Bon, le jeune aussi, souvent, ce n'est pas évident à tous les jeunes d'avoir la conscience de dire que je suis les responsables de demain. Mais s'il arrive à avoir des amis ou bien des frères et des sœurs à côté de lui expliquer et de lui faire revenir à la raison comme quoi ils sont l'avenir de demain, donc ils doivent faire tout pour ne pas tomber dans leurs erreurs, comme quoi de tomber enceinte ou d'avoir d'attraper des infections sexuellement transmissibles qui peuvent mettre un frein à leurs études à l'école. Parce que quand tu es à l'école, quand tu tombes enceinte ou quand tu attrapes les IST, ce n'est pas évident que tu continues avec tes études. Ou bien tu n'es pas outil et sûr et certain que tu peux continuer tes études sans pourtant avoir des fardeaux sur ton dos. Parce que quand une jeune maman qui va à l'école avec un enfant, c'est pas évident qu'elle finisse avec ses études, ou bien quelqu'un qui a attrapé les IST ou le VIH-SIDA, c'est pas évident que ses amis soient tout à fait corrects avec lui. Donc, toutes ces choses-là peuvent lui mettre un frein à son éducation. C'est pour cela que je juge nécessaire qu'il parte vers la planification familiale pour qu'ils ne puissent pas tomber dans les erreurs.
Merci beaucoup pour votre éclairage. Je viens à Madame Oumou Salif Touré. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous citer des différentes méthodes de contraception?
Oui, bien sûr. Merci d'abord pour la question. Il existe plusieurs méthodes de contraception. Pour ne citer que trois. Il existe trois méthodes de contraception. On les a classées comme ça. Il y a les méthodes de longue durée, il y a les méthodes de courte durée et il y a les méthodes permanentes. Les méthodes de longue durée, ce sont des méthodes qui peuvent faire longtemps. L'utilisation peut durer 1-2 ans jusqu'à 10 ans. Parmi ces méthodes, on a les dispositifs intra-utérins, DU. On a aussi la Jadel. Ensuite, nous avons les méthodes de courte durée qui sont des méthodes qui peuvent être utilisées à partir d'une seule fois à 6 mois. Nous avons les pilules, les préservatifs masculins et féminins. Nous avons aussi l'injectable, la méthode qu'on utilise pour 3 mois. Chaque 3 mois, on les fait. Voilà, nous avons aussi les méthodes naturelles, les méthodes qu'on appelle méthode mama, les méthodes de la glaire cervicale, les méthodes de la température, le collier, tout ceci sont des méthodes de courte durée. Nous avons les méthodes permanentes. La ligature des trompes et la vasectomie, comme vous l'entendez, c'est des méthodes permanentes. Elles sont irréversibles quand on les fait. Voilà, merci.
Je vais rester avec vous. Hein. Et quelles sont celles qui vous paraissent le plus adaptées aux besoins aux jeunes et pourquoi?
Voilà, quand on est jeune, comme nous, nous cherchons deux choses. La première, c'est de ne pas tomber enceinte pour pouvoir continuer les études et pour pouvoir avoir un travail stable un jour. Le second point, c'est de vraiment être discret. Il ne faut pas que tout le monde sache qu'on utilise la méthode de planification. Donc, en me référant à ces deux points, je pourrais dire qu'il y a deux méthodes de planification familiale que je juge vraiment nécessaires pour les jeunes. On a d'abord la Jadel qui a une durée de 1 année jusqu'à 4 ans. Voilà. C'est une méthode qui est d'une longue durée. Donc, les jeunes peuvent l'utiliser pendant longtemps et continuer avec leurs études en toute tranquillité. Donc, nous avons aussi l'injectable qui est utilisé chaque 3 mois. Les jeunes les préfèrent parce que c'est une méthode très discrète. Tu pars, tu fais l'injection. Personne ne sait que tu as fait l'injection à part toi et les prestataires de services. Donc, les jeunes préfèrent ça pour sa discrétion. Voilà. C'est les deux méthodes que les jeunes préfèrent vraiment.
Et les préservatifs?
Oui, les préservatifs sont utilisés, mais nous pensons qu'en utilisant les préservatifs, ce n'est pas comme si on faisait l'amour réellement. Parce que c'est une méthode de barrière. On s'est dit que non, les préservatifs, non, quand on l'utilise vraiment, ce n'est pas comme si on faisait l'amour avec quelqu'un. Alors que c'est purement psychologique tout ça. Il faut que les jeunes se mettent en tête que les préservatifs, c'est l'unique chose qui peut nous protéger contre les grossesses non désirées, mais aussi contre les infections sexuellement transmissibles. Mais on s'est dit non, quand on utilise les préservatifs, c'est pas comme si on était vraiment à fond dedans. Voilà, c'est un problème.
Merci beaucoup au Mons Salif Touré. Et je reviens à M. Ousmane Maïga. Ousmane, bienvenue, bonjour. Quels sont les obstacles qui limitent l'accès des jeunes aux informations et aux services en matière de contraception?
Ok, alors merci. Juste dire que la thématique, elle est tellement intéressante qu'il faut vraiment l'aborder à fond. Puisque la contraception, d'abord, quand Oumou vous parlait des méthodes contraceptives, il est nécessaire qu'on sache que la contraception n'est pas quelque chose de nouveau. Chez nous, en Afrique, parce qu'on le pratiquait dans le temps, mais sous différentes méthodes et différentes formes. Alors, pour revenir à votre question, les obstacles liés à l'accès aux produits contraceptifs ou à la santé sexuelle et reproductive, en général, c'est qu'il y a des pressions, un peu sur des barrières socio-culturelles qui existent dans nos pays. Et ces barrières sont dues à la religion souvent, ou à la tradition, ou aux coutumes, qui disent que quand on est jeune, on ne doit pas parler de sexualité. Quand on est jeune, on ne doit pas toucher à tout ce qui est organe génital et tout. C'est tabou pour les jeunes. Donc du coup, les parents ne permettent pas à leurs enfants d'avoir accès à ces services. Il y a aussi des difficultés économiques, c'est-à-dire les jeunes. Comme on est jeune, on est à l'école. On n'a pas tout le temps les moyens de se fournir les méthodes contraceptives. Donc du coup, l'argent en coût en tant qu'argent pour avoir accès à ces méthodes peut être difficile. Mais aussi, il y a d'autres barrières au Mali, notamment qui est un grand pays. Il y a des barrières géographiques, c'est-à-dire il n'y a pas de centre de santé partout. Il n'y a pas aussi de soins adaptés pour accueillir les jeunes qui ont besoin de ces services. Donc du coup, quand un jeune part dans un dispensaire ou dans l'hôpital, pour avoir accès à ces services, ça devient très difficile puisqu'il est souvent repoussé par les prestataires ou repoussé aussi par d'autres personnes qui disent que tu es jeune, pourquoi tu viens chercher ça? Alors que dans nos sociétés, il est interdit aux jeunes de parler de tout ce qui est sexualité.
Est-ce que les réponses de notre micro-trottoir, vous pensez que c'est des réponses convaincantes?
Je pense qu'il y a beaucoup de mythes autour de tout ce qui est sexualité et aussi beaucoup de commérages puisque les gens donnent des images ou donnent des quotations à certaines méthodes qu'ils ne connaissent pas au fait, qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Par exemple, quand on parle de pilules, il y a des gens qui disent que si tu prends des pilules, à un certain moment, si tu veux arrêter d'avoir un enfant, ça devient difficile. Et d'autres disent qu'il y a une fois, un enfant est né avec des pilules dans la main pour montrer au monde qu'il ne faut pas utiliser les pilules. Donc, c'est des mythes, ce sont des histoires qui sont créées autour de ces produits-là. Donc du coup, ça rend un peu l'utilisation risquée pour certains qui pensent que ces histoires sont vraies. Alors que ce n'est pas du tout vrai. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que ce qu'ils donnaient, ils ont donné comme réponse, c'est des bonnes réponses, mais je crois qu'il y a encore plusieurs méthodes que ces gens ne maîtrisent pas et que ces gens-là ne savent pas qu'ils ont droit ou qu'ils ont accès. Donc du coup, il faut augmenter l'information puisque j'ai constaté que les méthodes dites par ces personnes interviewées sont à peu près les mêmes. C'est des méthodes qui sont plus générales et tout, mais alors qu'il y en a d'autres qui peuvent être encore plus adaptées à eux et aussi dont ils ont accès, mais ils ne savent pas exactement que ces méthodes existent. Donc je pense qu'il faut vraiment augmenter l'information sur ces produits et aussi améliorer la stratégie de communication sur tout ce qui est service en matière de santé sexuelle et reproductive et notamment la contraception puisque c'est aussi une question de politique de population puisque là où nous sommes actuellement, nos pays qui sont les pays africains surtout du sud du Sahara doivent aller vers ce qui est l'atteinte de dividendes démographiques et cela passe nécessairement par l'utilisation des méthodes contraceptives pour tirer profit de tout ce qui est cette population de jeunes dans nos pays.
Je vous informe que vous suivez toujours votre émission « Ensemble faisons entendre la voix des jeunes ». Éclairage des spécialistes, comme dans chaque émission, nous allons donner la parole à un spécialiste pour nous apporter plus d'informations sur le sujet. Dans cette émission, nous avons fait appel à Madame Togola Hassan et M. Diakité, deux membres de l'Association malienne pour la promotion et la protection de la famille, AMPPF. Je vous propose de les écouter.
Éclairage des spécialistes. Aujourd'hui, nous avons des spécialistes avec nous, dont Mme Togola Hassan et M. Diakité de l'Association malienne pour la promotion et la protection de la famille AMPPF. Mme Togola, honneur aux femmes, on va commencer par vous. Alors, Mme Togola, quelles sont les différentes méthodes de contraception utilisées au Mali?
Il y a beaucoup de méthodes de planification. Il y a les méthodes de courte durée, il y a les méthodes de longue durée, il y a les méthodes temporaires. Les méthodes de courte durée, ça on peut citer par exemple les pilules, les injectables, les préservatifs féminins et masculins, également il y a l'injectable également, ça c'est etc etc. Par rapport aux méthodes de longue durée, nous avons les dispositifs intra-utérins qui peuvent au moins durer au moins une douzaine d'années. Il y a les implants, il y a la Jadel qui dure au moins 5 ans et puis il y a l'implant non qui dure au moins 3 ans. Donc il y a également une méthode permanente qui concerne les hommes et les femmes, la ligature des trompes chez les femmes et la vasectomie chez les hommes. Ça c'est une méthode définitive et irréversible.
Comment ces méthodes que vous venez de citer peuvent-elles répondre aux besoins des jeunes?
La contraception est très importante chez les jeunes parce que ça les protège contre les maladies sexuellement transmissibles. Ça évite également les grossesses non désirées. Également, ça évite également les avortements clandestins parmi les jeunes.
Eh bien maintenant, je me tourne vers M. Diakité. Voulez-vous ajouter quelque chose à ce que vient de dire Mme Togola?
Quand on parle de la contraception par rapport aux jeunes, il faut toujours lier les aspects de prestation clinique aux aspects de droit. C'est pourquoi très généralement maintenant on parle de droit en matière de santé sexuelle et reproductive. Donc tant que ces droits-là sont respectés, Et généralement, dans nos boxes de consultation, nous en avons une dizaine, parmi lesquelles une place prépondérante est réservée à ce qu'on appelle le choix. Aucun prestataire n'a le droit d'imposer un choix quelconque à un client, encore moins un client jeune. C'est pourquoi d'ailleurs, dans tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous avons cette stratégie de créer des points de prestation de services de planification familiale et de contraception dédiés aux jeunes. C'est ce qu'on appelle couramment les espaces sûrs. Donc, ce n'est pas la méthode en tant que telle, c'est la stratégie pour faire passer la méthode chez les jeunes.
Eh bien, M. Diakité, quelles sont les réalités et les mythes autour de ces méthodes? Parce que beaucoup de choses ont été dites en matière de contraception.
Les réalités ne valent que parce qu'elles sont vécues dans un milieu. Vous savez, dans un pays, ou en tout cas dans un milieu pronataliste tel que celui du Mali, il y aura toujours des rumeurs qui vont courir autour de tel ou tel événement. Mais nous, nous pouvons vous assurer que les méthodes de planification sont des méthodes scientifiquement avérées. Il y a des effets secondaires par rapport justement à certaines méthodes. Mais les prestataires de services sont là pour gérer ces cas d'effets secondaires. C'est pourquoi d'ailleurs, la seule vérité que nous disons à tout client, pas seulement aux clients jeunes, c'est de passer par les structures de santé de la reproduction, où les prestataires sont qualifiés pour aller aux prestations de services. Il faut éviter les pharmacies de la rue. C'est ça la seule rumeur qu'il faut combattre. Tout le monde ne peut pas être prestataire en matière de santé de la reproduction. Pour preuve, quand vous êtes venu me voir, je vous ai renvoyé aux spécialistes. Donc réellement, c'est un appel qui nous vient du cœur. Il faut que les jeunes sachent que lorsqu'ils iront vers les prestataires qualifiés, les rumeurs seront gérées. Les effets secondaires seront gérés parce qu'il n'y a aucune méthode sans effet secondaire. À part les méthodes naturelles, même là, il y a un effet secondaire. Hein, parce qu'on peut se tromper, on peut faire de mauvais calculs. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport aux rumeurs, au fait qu'ils tournent autour de ces méthodes.
Merci Madame Togola, merci Monsieur Diakité d'avoir bien voulu répondre à nos différentes questions.
J'espère que les informations de notre spécialiste vous seront utiles. N'ayez pas peur d'aller vers les structures de santé pour plus d'informations. Je reviens sur ce plateau avec nos invités et cette fois-ci, c'est Oumou Salif Touré qui va nous répondre. Oumou Salif, qu'est-ce qui peut être entrepris au niveau de la famille pour faciliter l'accès à la contraception des jeunes sexuellement actifs?
Au niveau de la famille, je pense que beaucoup de choses peuvent être entreprises. D'abord, il faut que les parents passent à insérer la communication entre parents et enfants. On a vu avant, il y avait cette communication entre parents et enfants et ça facilitait beaucoup de choses. Ça facilitait le passage de l'adolescence à être une femme. Mais de nos jours, la maman ne parle plus avec la fille, le papa ne parle plus avec les fils. Du coup, on a beaucoup de problèmes parce que nous sommes égarés. Nous ne savons pas à qui nous adresser. Et les jeunes aujourd'hui sont sexuellement actifs, c'est un fait. Nous ne pouvons plus les cacher, les parents ne peuvent plus rien y faire. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire comme solution? Tu as une petite fille, elle a 15 ans, elle est à l'école, tu ne veux pas qu'elle tombe enceinte. Il faut commencer à discuter avec elle. Parle-lui de l'abstinence, parle-lui des conséquences des grossesses non désirées, parle-lui de l'importance des études. Après, parle-lui aussi de l'importance d'un foyer stable, parle-lui aussi d'un travail stable. Comme ça, elle est bien éduquée par rapport à tout ça. Maintenant, parle-lui des méthodes de contraception qui existent. Donne-lui les noms des méthodes. Cette méthode est faite pour ceci, cette méthode est faite pour cela. Ça peut te protéger contre ça, contre ça. Tu ne lui demandes pas d'aller faire la sexualité, tu ne le pousses pas vers la sexualité, mais tu es en train de lui donner des conseils qui vont lui servir toute sa vie. La famille doit vraiment travailler sur ces niveaux parce que nous avons vu que tous les problèmes que nous avons, c'est parce que cette communication a tendance à disparaître. Si cette communication était toujours d'actualité, nous n'aurons pas vraiment des problèmes, nous qui sommes sur le terrain, pour conseiller les gens. Parce qu'en fait, ils auront déjà une base par rapport à tout ce que nous allons leur dire. Mais maintenant, c'est de plus en plus difficile parce que tu croises des jeunes qui ne savent rien de la sexualité. Nous avons entendu le témoignage de tout à l'heure. Elle disait que sa maman lui a dit, dès qu'on parle à un garçon, on est directement enceinte. C'est des choses à éviter. Il faut faire passer la bonne information au niveau de la famille.
Est-ce que les parents sont informés par rapport à ça?
Justement, nous avons aussi un manque d'informations au niveau des parents. Parce que, comme l'a dit Ousmane, il y a un tabou que personne ne veut briser. Les gens ne vont pas à l'information. Il faut juste les focus sur les rumeurs et ce qu'on entend dans la rue. Et là-bas, il n'y a pas d'experts. Il y a plutôt des gens qui ont juste entendu quelques rumeurs qui viennent les partager avec d'autres. Du coup, les mamans sont mal informées. On dit à une maman que quand tu prends la pilule, tu ne peux plus jamais avoir d'enfant. Pour protéger sa fille, elle est obligée de lui dire « Bon, je ne veux pas que tu utilises une méthode de contraception. Ça peut faire ceci, ça peut faire cela. » Vous voyez les problèmes. Les parents aussi n'ont pas la bonne information. De nos jours, les parents ont du mal à s'informer parce qu'il y a un tabou autour de tout ce qui est planification familiale. Il faut vraiment aller à l'information. Il ne faut pas se fier aux rumeurs. Il faut vraiment aller demander les prestataires. Là-bas, il y a la bonne information. Tu y vas, tu poses des questions, même si tu n'y vas pas pour faire des prestations de services, tu vas juste pour te renseigner, demander aux prestataires quelles sont les différentes méthodes qui existent et ils vont te les dire, tu vas choisir les options qui te conviennent parce que comme on l'a dit, même boire de l'eau, il y a des effets secondaires. Donc les méthodes contraceptives, eux aussi ont leurs effets secondaires, mais ça n'a jamais empêché qui que ce soit d'avoir des enfants. Ça n'a rendu personne stérile ou encore gravement malade. Mais les parents n'ont pas la bonne information et c'est à eux d'aller vers l'information. Car je pense que l'État et toutes les structures qui sont au Mali ont fait de leur mieux en matière de partage d'informations.
Monsieur Ousmane Maïga, au niveau de la communauté, pour faciliter l'accès, que proposez-vous?
Je pense que les thématiques liées au développement de l'humain en tant que tel, qui partent, comme Oum l'a dit, de la famille, un ensemble de familles qui forment une communauté, il est vraiment nécessaire de mettre en place des cadres d'échange entre les différents acteurs d'une communauté sur ces thématiques. Auparavant, dans nos communautés, l'éducation de l'enfant était un attribut de tous les membres de la société en tant que tel qui contribuaient à éduquer l'enfant. Mais aujourd'hui, avec la création des familles nucléaires et aussi avec tout ce qui est individualisme en tant que tel, nous commençons à perdre ces valeurs. Donc du coup, ceux qui prennent les relèves en tant qu'acteurs dans la vie de la communauté, ce sont nous, les organisations communautaires, ce sont les organisations de femmes, des organisations de jeunes ou d'autres organisations qui doivent aussi se réunir autour de ces communauté afin de passer l'information, mais surtout en adaptant leur stratégie de communication aux besoins et aux réalités de ces communautés afin que le message puisse bien passer. Alors si on veut communiquer avec un groupe de personnes dans un quartier, il est peut-être comme on le fait d'habitude d'avoir des échanges directs à travers des causeries débats, à travers des animations grand public dans lesquelles on peut avoir souvent juste un groupe homogène, uniquement jeunes, ou des groupes hétérogènes, je dirais multiples, mettant en ensemble les jeunes, les parents, les leaders communautaires pour discuter sur certaines thématiques comme on le fait très souvent à JICAD sur les thématiques de contraception. Donc ce qui consiste surtout à réunir les parents et les leaders avec les jeunes qui présentent leurs caisses, qui font aussi d'autres démonstrations afin de communiquer avec ses parents et au retour nous donnons la parole à ses parents pour s'exprimer et aussi des jeunes apprennent avec ceci et du coup ça crée une ambiance d'allié entre les parents et les jeunes qui pourront aussi se prolonger dans la famille eux-mêmes à travers d'autres aspects comme le counseling entre parents et enfants sur ces thématiques. Donc du coup, je pense qu'il est aussi évident et même plus possible de communiquer en groupe sur ces thématiques afin que ces communications en groupe puissent avoir des impacts sur les communications interpersonnelles plus restreintes dans les familles et aussi à d'autres niveaux.
Monsieur Ibrahima Sissogo, au niveau des systèmes de santé, et pour faciliter l'accès, que proposez-vous?
Je dirais l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive uniquement dédiés aux jeunes doit être fait dans un endroit bien précis. C'est-à-dire on ne doit pas avoir, de honte d'aller sur les centres de santé sexuelle et reproductive. C'est-à-dire, dans le CSRF et dans les CSCOM, on ne trouve pas de services dédiés uniquement pour les jeunes. Moi, je dirais que les services dédiés uniquement pour les jeunes, ils sont peu par rapport à la situation géographique du Mali. Quand on prend, par exemple, dans les communes, on peut trouver seulement un service de santé sexuelle dédié uniquement aux jeunes. Ce qu'on peut faire dans les CSRF, dans les CSCOM, on peut dédier un service uniquement pour le jeune, destiné uniquement pour le jeune, de prestataires des services qui sont tous jeunes, les jeunes qui seront présents dans les centres de santé pour donner des conseils, des counseling aux jeunes. Pour moi, ça serait une solution idéale pour faciliter l'accès aux jeunes aux services de santé sexuelle et reproductive.
Merci beaucoup. On va rester toujours avec nos invités, mais bien avant, on va vous faire écouter Parole du Saint-Pion. Souvent, il est facile de trouver des personnes qui s'engagent pour la démocratie et le droit de l'homme, mais peu de gens se sentent concernés par le combat sur l'accès à la contraception pour les jeunes. Ce n'est pas le cas pour notre Saint-Pion. Il est convaincu que c'est un combat noble aussi que la démocratie et le droit de l'homme. D'ailleurs, c'en est temps. Mesdames et messieurs, tout de suite, je veux vous faire écouter notre Saint-Pion, M. Edouard Keïta.
Je suis Edouard Keïta, coordinateur pays de l'Alliance internationale des jeunes pour la planification familiale au Mali. Je me suis engagé pour cette cause, c'est-à-dire les droits à santé sexuelle et reproductive pour des raisons multiples. Déjà, vous savez, on ne peut pas parler de santé sexuelle et reproductive sans parler de la jeunesse. Vraiment, la jeunesse est la couche la plus vulnérable face aux infections sexuellement transmissibles, face au VIH, SIDA, face au mariage des enfants. Et c'est pour cela que vraiment, je me suis engagé. Essayer de défendre un peu les droits, faire ressortir que vraiment nous avons des droits. Et l'un de ces droits, vraiment, c'est d'avoir une sexualité épanouie et voir comment ou quand avoir un enfant, quand je veux. Également, choisir qui, avec qui je peux me marier. Et également, au-delà de tout ça, vraiment, l'utilisation d'une méthode de planification familiale est aussi l'un de ces droits. Donc c'est pour ces raisons multiples que je me suis engagé vraiment quand tu parles du Mali en général, et surtout en matière de planification familiale, nous sommes vraiment en retard. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de progrès qui a été fait, mais vraiment il y a beaucoup qui reste à faire. Nous avons un taux de prévalence contraceptif pas très faible, mais un peu faible, qui est de 9,9% selon la dernière enquête démographique sur la santé et qui date de 2012-2013. Et donc pour essayer de résoudre tous ces problèmes, nous nous sommes engagés vraiment à faire la promotion des droits en matière de santé sexuelle et reproductive, surtout la planification familiale en général, à travers l'utilisation des méthodes de contraception. Et comme action que nous menons, c'est juste la promotion et le plaidoyer en matière de planification familiale. Et montrer l'importance de la planification familiale à la population et également plaider auprès des décideurs pour prendre en compte les droits en matière de santé sexuelle et reproductive et aussi en matière de planification familiale. Par exemple, rendre gratuite l'utilisation des méthodes de planification familiale aux couches les plus vulnérables. C'est possible, c'est bel et bien possible au Mali. Dans les pays voisins, ils sont vraiment en train de voir comment rendre gratuite les produits de planification familiale et donc pourquoi pas chez nous. Comme message que j'ai à lancer à l'endroit de la communauté sur la contraception et son utilisation de manière générale est tout simplement que la population vraiment comprenne que l'utilisation des méthodes de planification familiale est différente des questions d'avortement ou également de ne pas avoir d'enfants. Et comme je l'ai si bien dit au début, la planification familiale ce n'est plus une question de santé, c'est plutôt aussi une question de développement durable. Cela aussi ne peut pas se faire sans l'implication de tout le monde. Il faut que la communauté comprenne que vraiment c'est à son actif. Et se protéger contre une grossesse non désirée, surtout une fille, ça la permet vraiment de continuer ses études et avoir un emploi décent et créer vraiment une famille où il y a l'épanouissement. Si la maman est en bonne santé, l'enfant en bonne santé, les dépenses familiales seront obligatoirement réduites. Donc la communauté doit comprendre que vraiment la promotion de la planification familiale, c'est à son actif. Comme message que j'ai à lancer à l'endroit des décideurs, c'est juste prendre en compte les droits en matière de santé sexuelle et reproductive et accompagner, je dirais bien, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, vraiment. Il y a des ONG locales qui sont là, nationales ou internationales, qui accompagnent le ministère de la Santé. Il faut aussi que le ministère de la Santé revienne en retour vers ces ONG, essayer de voir combler les vides qui restent en matière de planification familiale, santé de la reproduction en général. Et aussi, bientôt, nous allons entamer la campagne nationale en faveur de la planification familiale, 13e édition. C'est sûr, il y a beaucoup d'activités qui sont prévues par les ONG qui interviennent en matière de planification familiale. Donc, que les décideurs vraiment puissent faire de cette campagne une réussite, que vraiment ça soit du jamais vu cette année. L'année passée, ça a été un grand succès. C'était même parrainé par Madame la Première Dame, et qui a été nommée championne en planification familiale. Et vraiment, il faut aussi l'accompagnement de tout le monde, même l'Assemblée nationale. C'est très important, il faut que les décideurs vraiment accompagnent aussi en retour les ONG locales qui travaillent vraiment pour le développement de ces pays.
Chers auditeurs, auditrices, vous pouvez retrouver plus de champions et de championnes engagés dans ce domaine à travers toute la sous-région sur notre site generationpf.equipop.org. Voilà, mes amis, je voudrais que chacun et chacune de vous lance un message fort à l'endroit des décideurs pour un accès gratuit aux méthodes contraceptives. Je commence par monsieur Ibrahim Sissego. Un message.
Merci beaucoup. Et le message que moi je voudrais adresser à l'ensemble de la population, plus particulièrement aux autorités, aux décideurs politiques, c'est-à-dire de créer un cadre, un système, un mécanisme pour l'accès sur la santé sexuelle et reproductive des jeunes, un accès facile. Parce qu'on a vu maintenant que les jeunes sont souvent confrontés à beaucoup de choses. Donc, qu'on les remette sur leurs droits. Un de leurs droits fondamentaux, ça c'est l'accès à des soins sur la santé sexuelle et reproductive. C'est ça que moi je peux lancer comme appel à l'endroit des autorités.
Comment ça livre trouvé?
Bon, comme message aux décideurs, que ce soit au niveau politique, religieuse. Moi, je dirais maintenant que la capture du dividende démographique est un fait qui est là. Il faut vraiment y passer pour que les Malais puissent un jour penser à son développement. Maintenant, aux autorités politiques, je vais leur dire vraiment de faciliter l'accès aux produits contraceptifs à tous les jeunes, que ce soit aux jeunes des différentes capitales régionales, mais aussi des jeunes qui se trouvent dans des contrées éloignées, qui en ont plus besoin, mais qui n'y ont pas accès, faute des économies qui ne sont pas là ou encore liées à la distance qui n'est pas facile. Vraiment, il faut que ça change. Plus nous évoluons, plus les besoins se font sentir au niveau de l'accès à la contraception. Nous ne pouvons rien faire si nous n'avons pas ça avec nous, parce qu'être plus nombreux, ça ne nous servira à rien. Il y aura des problèmes au niveau de la santé, des problèmes au niveau économique, des problèmes même dans la vie de tous les jours. Nous en voyons toujours. Et la solution pour moi, c'est la contraception. L'autre message s'adresse aux décideurs religieux, nos leaders religieux, vraiment l'État et toutes les organisations, que ce soit les organisations de jeunes, les différentes ONG qui existent au Mali, font de leur mieux pour faciliter l'accès à la planification familiale aux Maliens. Mais le problème, c'est quoi? On a des problèmes socioculturels et religieux. Les religieux sont plus écoutés au Mali que les présidents de la République même. Il suffit juste qu'ils lancent les messages à pendant un vendredi ou un dimanche à l'église pour que tout le monde suive. Même si moi, je vais vraiment me planifier, mon mari, il est musulman et pratiquant, il va à la mosquée, il entend toujours que c'est interdit, c'est haram. Du coup, je ne peux pas avoir accès à ça parce qu'il s'est dit que maintenant, oui, c'est pas avec les hommes, j'aurai un problème avec Dieu après. Donc, il va pas me laisser faire. Mais si les religieux cherchent à comprendre, parce que c'est vraiment quelque chose qui était là, comme l'a dit Ousmane, bien avant aujourd'hui, la contraception est là. Et avec les recherches, on a même pu découvrir que dans le Coran, il est dit de laisser 2 ans d'intervalle, au moins, entre les différents accouchements. Voilà, si tout ceci est là, mais pourquoi les religieux ne s'approchent pas afin d'apprendre aussi de ceux qui savent et de dispenser les vrais messages, les vraies informations pour que la population lambda puisse mieux comprendre. Voilà, ils ont vraiment une responsabilité qui est là et il faut vraiment s'accouter de ces devoirs-là. Voilà, l'appel que je lance vraiment, c'est un appel, un cri de cœur même aux religieux pour qu'ils puissent faire de leur mieux, afin que tous les jeunes du Mali, tous les Maliens qui ont un besoin au niveau de la contraception puissent y avoir accès.
Monsieur Maga Ousmane.
Merci. Je pense que mes prédécesseurs ont beaucoup parlé. Tout ce qu'ils disent, c'est exactement ce facteur. Mais vu aussi l'aspect transversal de la contraception, comme ils l'ont dit, lié à l'éducation pour le maintien des filles à l'école, lié à la santé de la mère, de l'enfant, et aussi lié à d'autres aspects économiques pour la gestion de tout ce qui est dépenses familiales et même communautaires. Je pense que ça devient une question très importante qui a son rôle dans chaque secteur du développement, humain et aussi communautaire, mais aussi de développement d'un État quand on parle de dividendes démographiques. Donc du coup, en résumé, c'est l'acceptabilité et l'accessibilité. Il faut qu'on accepte que les jeunes sont des êtres sexuels et qu'ils ont aussi des problèmes par rapport à des aspects de santé de la reproduction et qu'il faudrait les encadrer, les informer, les sensibiliser, mais aussi mettre à leur disposition des méthodes qui peuvent leur permettre aussi de se prévenir de tout ce qui est maladie sexuellement transmissible ou aussi de tout ce qui est grossesse précoce indésirée qui ont aussi des conséquences sanitaires énormes. Donc, quant à l'accessibilité, ce sont les autorités, ce sont aussi tout ce qui est service en termes de santé, ce sont encore les ONG qui sont toujours là, qui parlent de ces thématiques. C'est vraiment d'adapter le plateau, d'adapter l'accueil et aussi d'adapter leur politique aux besoins des jeunes en matière de santé sexuelle et reproductive, mais singulièrement la planification familiale qui peut leur permettre de se développer, de poursuivre leurs rêves et d'être quelqu'un un jour. Merci.
Merci à nos invités, Monsieur Ibrahima Sissogo, Oumou Salif Touré, Ousmane Maïga. Et notre thème du jour, c'était sur la contraception. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission et on va se retrouver une autre fois. Et prochainement, nous serons là sur ce plateau pour une autre émission sur la contraception. Voilà, salam alaikum tout le monde et au revoir.